accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, nous vous emmenons en Islande, dans une ferme de sang. Une ferme de sang, c'est une de ces exploitations agricoles qui collectent le sang de juments vivantes. En gestation, on en extrait une substance qui booste la fertilité des animaux d'élevage. C'est une activité très lucrative, mais qui fait débat. Trois pays au monde la pratiquent, l'Uruguay, l'Argentine et en Europe, l'Islande. Donc, ces fermes islandaises ont été épinglées l'an dernier par des associations de défense animale pour maltraitance. Le secteur est méfiant, il est donc peu enclin à laisser libre accès à ces exploitations. Et lorsqu'un rare avis favorable se manifeste, les témoignages sont anonymes, comme une partie de ceux qu'a réussi à obtenir notre correspondant Jérémy Richard.
Dans sa ferme à sang autour d'une vaste prairie près de Selfoss, dans le sud de l'Islande, un quinquagénaire ne voulant pas être identifié s'apprête à saigner une quinzaine de juments sur la centaine qu'il possède. Regroupées dans une structure en bois spécialement aménagée sous un petit hangar, elles entrent chacune leur tour dans l'un des trois boxes. L'exploitant dispose alors des planches autour de leurs pattes.
Ces boxes étroites servent à protéger les animaux. Pour qu'on puisse réussir à prélever le sang, il faut qu'il soit aussi immobile que possible. Donc, on essaie de trouver un moyen d'attacher le cheval pour qu'il ne puisse pas trop bouger. Certaines juments sont plus stressées que d'autres. Mais ce n'est pas un problème, car généralement, elles prennent le pli assez rapidement.
La tête des juments est ensuite légèrement surélevée après leur avoir enfilé une longe. La saignée peut alors commencer au niveau de la veine jugulaire. Un vétérinaire diplômé de 29 ans, également anonyme, explique les différentes étapes.
On commence par préparer la peau. On rase légèrement le poil si la veine n'est pas visible correctement. Puis on nettoie la peau, on utilise du désinfectant pour la rendre aussi propre que possible afin de tuer toutes les bactéries qui s'y trouvent. Ensuite, on injecte des anesthésiques par voie sous-cutanée et enfin, on insère une canule avec laquelle on prélève le sang.
Le prélèvement sanguin dure environ 5 minutes où jusqu'à 5 litres sont collectés par jument, une opération répétée chaque semaine pendant presque 2 mois. L'activité se déroule de fin juillet à début octobre et rapporte plus de 70 000 euros annuels à l'exploitant de Selfoss, par ailleurs avocat. Le sang est ensuite récupéré par la biotech Histeca qui va en extraire sous forme de poudre une hormone appelée ECG ou PMSG produite par la jument au cours de sa gestation. Arthur Gudlaugsson est le directeur général.
Notre produit se présente sous forme d'API, une substance active. Et c'est ça que d'autres sociétés pharmaceutiques utilisent comme ingrédient principal pour les médicaments de fertilité qu'elles fabriquent.
Cette activité est pratiquée sur l'île depuis 1979, mais n'a été mise au jour aux yeux du grand public que l'an passé, après la publication par des défenseurs des animaux d'une vidéo de maltraitance. Tournées en caméra cachée, les images montrent des chevaux lutter avec vigueur, battus et même mordus par des chiens. Un supplice pour Rosalif Daradotir, vice-présidente de l'Association pour le bien-être animal d'Islande.
Je pense que j'ai réagi comme la plupart des gens. J'étais horrifiée, triste et en colère de voir ces mauvais traitements infligés au cheval islandais. C'était juste très pénible à regarder.
Les autorités islandaises ont pu identifier les fermes incriminées. Une enquête policière est toujours en cours. Mais le directeur général d'Histeca, Arthur Gudlaugsson, dénonce les méthodes des activistes.
La vidéo était, disons, conçue un peu pour donner une description trop négative, de mon point de vue, du processus. Il y avait néanmoins des exemples qui indiquaient une mauvaise pratique ou une pratique qui aurait dû être meilleure.
Le scandale a en tout cas déclenché un débat en Islande qui comptait l'an passé 119 fermes à sang et près de 5400 juments gestantes, élevées dans le seul but d'être saignées, un chiffre qui a plus que triplé en 10 ans. Leurs poulains sont eux généralement envoyés à l'abattoir. Le Parti du Peuple a déposé devant le Parlement en septembre une troisième proposition de loi visant à bannir la pratique jusqu'ici toujours retoquée. La députée Inga Sæland.
Chaque semaine, 5 litres de sang sont prélevés des juments. De notre point de vue, c'est purement du mauvais traitement des animaux. Et nous avons un mot pour ça, on appelle ça de la cruauté animale. On veut donc interdire complètement cette activité.
L'Islande est le plus grand producteur d'Europe d'hormones ECG, employées pour améliorer la reproduction des animaux d'élevage aux quatre coins du monde. Ce but lui-même soulève des questions éthiques pour Rosalif Daradotir de l'Association de défense animale islandaise.
En sommes-nous vraiment arrivés au point où l'on trouve normal de fabriquer un médicament pour les animaux de production uniquement pour améliorer leur fertilité au-delà de leur capacité naturelle, juste pour que nous ayons un flux stable de porcs bon marché à disposition ? La cause n'est pas noble.
Le ministère de l'Agriculture a durci sa réglementation début août. D'une validité de 3 ans, elle doit permettre aux autorités d'établir un suivi et de décider d'ici là l'avenir des fermes à sang en Islande.
Comme le reste des Balkans, la Bosnie-Herzégovine a pris avec retard la vague MeToo. Mais aujourd'hui, les femmes du pays s'attaquent de plus en plus fort au puissant système patriarcal. Ces derniers mois, elles se sont mobilisées pour la reconnaissance du féminicide comme un crime dans le code pénal et pour la mise en place de mesures concrètes contre les violences conjugales. Les explications de Simon Rico.
Ce n'est pas un accident, c'est un meurtre, pas un crime passionnel, mais un féminicide, soulignent les militantes de Nissam Tragila, le collectif féministe, à l'initiative de la première vague MeToo qui a déferlé en Bosnie-Herzégovine et dans les pays voisins début 2021. Selon les données recueillies par l'Agence pour l'égalité des sexes de Bosnie-Herzégovine, plus de 60 féminicides ont eu lieu dans le pays d'à peine 3 millions d'habitants depuis 2015 et une Bosnienne sur 3 serait victime de violences conjugales. Mais il n'existe toujours pas de statistiques officielles sur les violences faites aux femmes et les faits pourraient être encore bien plus inquiétants. Nous sommes unis pour faire entendre notre voix et demander aux décideurs de changer la législation, d'inclure le crime de féminicide dans la loi, insiste Selma Hadji Halilovic, la coordinatrice du réseau des femmes de Bosnie-Herzégovine. Les associations de défense des droits des femmes soulignent que le pays a ratifié il y a bientôt 10 ans la Convention d'Istanbul, ce texte européen qui doit permettre de mieux lutter contre les violences sexistes et sexuelles, mais que la législation, ou plutôt les législations du pays toujours très divisées, ne respectent encore qu'à peine la moitié des principes. C'est en effet tout le logiciel patriarcal qu'il faut changer. Ici, les policiers dissuade toujours les femmes victimes de violences de porter plainte et les tribunaux continuent de juger les féminicides comme des crimes passionnels, infligeant aux coupables des peines bien inférieures qu'aux homicides volontaires et que les violeurs écopent aussi de peines très légères, en moyenne un an ferme. Sans parler du fait qu'il n'y a que 180 lits dans tout le pays au sein de 8 structures d'accueil pour les femmes victimes de violences.
En quelques années, les influenceurs sont devenus les nouvelles stars de l'information. Après avoir conquis la mode, la cuisine ou l'art de vivre, on dit lifestyle désormais, et la concurrence est féroce. Elle s'ajoute à la gloire et à l'angoisse des algorithmes. Désormais, les créateurs de contenu sur le web ont besoin de défendre leurs droits. L'année prochaine, ce sera une réalité pour les influenceurs italiens. Ils auront leur syndicat. Et ça, c'est une bonne nouvelle, Clémence Pénard.
En France, le député écologiste Aurélien Taché vient de déposer une proposition de loi concernant le travail de ces influenceurs. L'objectif, que le secteur soit mieux encadré pour éviter les dérives, surtout celles qui peuvent nuire aux consommateurs. Mais pour ce qui est de la protection des influenceurs, pas grand-chose. Alors en Italie, les créateurs de contenu eux-mêmes ont décidé de prendre les devants pour faire valoir leurs droits. Dans le pays, ils sont près de 350 000 influenceurs, mais tout le monde n'a pas les 28 millions de followers sur Instagram de Chiara Ferragni. Beaucoup sont freinés par des problèmes administratifs ou même victimes de contrats flous avec des marques ou bien des agences d'influenceurs. Tout n'est pas que paillettes. En fait, le métier d'influenceur, c'est beaucoup plus de travail que ce qu'on croit. Il y a une constante pression des likes, des statistiques, de tel ou tel poste. Il faut être un as de la communication et bien sûr savoir tarifer ses prestations. Alors un syndicat, ça permet pour tout le monde déjà d'être mis sur le même pied d'égalité. Ensuite, tous auront ainsi une protection fiscale et juridique. Le syndicat entend également proposer d'autres services susceptibles de les aider, tels qu'un soutien psychologique par exemple. Jusqu'à présent, ceux qui travaillent sur Internet ne sont pas reconnus comme des travailleurs à part entière. Pourtant, c'est bel et bien un métier qui doit être protégé comme n'importe quel autre. L'Italie est donc pionnière en la matière puisque pour le moment, c'est le seul syndicat de la sorte qui existe en Europe.
La bonne nouvelle de Clémence Pénard en partenariat avec Enter. C'est à retrouver aussi sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. Les voitures sans permis, la France en produit depuis les années 70 et on en vendait jusqu'à présent autour de 13 000 par an. Un chiffre resté stable et une clientèle de retraités principalement. Mais les choses ont changé en 2018, les ventes ont commencé à augmenter de manière exponentielle. L'an dernier, l'industrie automobile en a écoulé 23 000 dans le pays, ça continue à augmenter. Ce sont désormais des voitures tendance qui plaisent à la jeunesse dorée. À Marseille, on les appelle les 100P, c'est un reportage de Yoram Meloul.
Du coup, voilà, c'est comme ça, donc il y a les deux sièges, il y a les deux pédales, c'est comme une voiture et après il y a le coffre.
C'est à essence ?
Diesel.
Et c'est tout automatique.
C'est ça. Il n'y a pas l'embrayage. Et... voilà, il n'y a que trois vitesses. Il y a marche avant, marche arrière et neutre.
C'est la pause de midi. Eléa, 16 ans, traîne avec ses copains sur une petite place à deux pas de son lycée, un établissement privé réputé situé dans les beaux quartiers de Marseille. La lycéenne est installée dans la voiture sans permis dont elle est propriétaire depuis un an.
Ah ben c'est trop bien, puisqu'on se sent plus libre. On est plus indépendant. On n'a pas besoin de demander à nos parents de nous emmener, je sais pas où, on peut se déplacer tout seul.
Tu t'en sers souvent ?
Oui, tous les jours.
Tous les jours ?
Tous les jours.
Pour aller au lycée ?
C'est ça.
Et en dehors de ça ?
Pour, je sais pas, aller voir des couchers de soleil, aller à la plage, aller faire les magasins.
Ce jour-là, sur la place, c'est le défilé des 100P. 100P, c'est le surnom affectueux donné à ces petits véhicules en forme de pot de yaourt qui peuvent être conduits après une formation de 8 heures. Manon est en première et sur le siège conducteur de sa voiture, elle a installé un coussin.
J'ai un rehausseur parce que je mesure un peu 1m20. Du coup, je vois pas la route, du coup j'ai un petit rehausseur. Du coup... dès que tu allumes, ça se connecte directement au CarPlay. On peut mettre la musique, on peut appeler aussi. Voilà, ça se connecte directement à ton téléphone. Voilà. Ça se connecte.
Elle se sert tout le temps de sa voiture, une sans permis de la marque Ligier, offerte par ses parents.
Et ils m'ont dit, si t'as la mention très bien au brevet, on t'offre la voiture. Du coup, bah, mes grands-parents et mes parents, ils m'ont offert ma voiture parce que j'ai eu la mention très bien.
Ça coûte combien ?
Ça coûte 16 000 euros.
L'autre condition fixée par ses parents, c'était qu'elle passe aussi le code avant de prendre la route.
Quand j'avais 15 ans, donc l'été dernier, j'ai passé mon code, du coup je l'ai eu du premier coup. Et voilà, j'ai passé mes 20 heures de conduite accompagnée sur boîte manuelle. Je sais conduire et tout, et j'ai mon code et tout. Alors que ceux qui ont la 100P, c'est des dangers.
Donc toi, t'es carrément prête à avoir le permis en fait.
Et le jour de mes 18 ans, je pourrais avoir une voiture et conduire ma voiture. Et cette 100P, je la passerai à mon petit frère.
Un tiers des élèves de sa classe ont une voiture sans permis. Et c'est le cas de la plupart de ses copines, comme Romy, qui a eu sa première à 14 ans. Elle en a désormais une nouvelle, un modèle, avec des options différentes de celles de Manon.
J'ai le siège chauffant et j'ai les enceintes derrière dans le coffre. Je crois que pas toutes les 100P les ont, puisque c'est les nouvelles. Je l'ai eu il y a un an presque.
En revanche, pour elle, pas d'airbag.
Pour ça, c'est hyper dangereux par rapport aux autres voitures. Déjà, c'est fait en plastique. En plus, il n'y a pas d'airbag, donc on fait un accident, on est directement dedans. Genre, c'est quasi comme les scooters, juste on est un peu plus protégé, mais par rapport aux voitures, c'est vraiment de la merde.
Désormais, grâce à sa voiture, elle décharge ses parents de certaines obligations.
Bah, déjà, quand je ne pouvais pas m'emmener, je devais y aller à pied ou c'était mes grands-parents qui m'emmenaient. Et maintenant, j'emmène mon frère quand ils ne peuvent pas l'emmener. Ils se disent que c'est vraiment pratique et ils sont contents que je le fasse. J'emmène à l'école le matin, parfois je le ramène, je vais le chercher où il veut, quand il veut. Ça les soulage d'un poids de devoir m'emmener. Même si c'était pas dérangeant, mais c'est un plus quoi.
Et comme ses copines, elle est devenue accro à la 100P.
Tout ce qui est à côté, même si à côté je prends la voiture, je vais très peu à pied. Quoi. Quand on a connu le fait de pouvoir se déplacer quand on veut, on a la flemme de tout faire.
L'augmentation du nombre de sans-permis en circulation a attiré l'attention de Sébastien Marek. Pour le doctorant en aménagement et urbanisme, ces véhicules conditionnent les plus jeunes à l'utilisation de l'automobile.
Cette socialisation précoce, intense, à l'automobile, quitte à conduire sans permis, qui forme à l'automobilisme, à l'usage très régulier ou exclusif de la voiture. Ça participe à délégitimer les autres alternatives qui sont pourtant nécessaires à développer, puisque la majorité des émissions de gaz à effet de serre sont dues au transport et à l'intérieur du secteur des transports, environ la moitié est due aux voitures individuelles.
Sans compter les impacts sur la santé de ses utilisateurs qui bougent moins et les risques pour la sécurité de ces très jeunes, souvent mal formés à la conduite.
Music. La musique avec Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
En votre compagnie, on retrouve Derya Yildirim.
Chose promise, chose due. L'an passé, Derya Yildirim, chanteuse et multi-instrumentiste turque basée à Berlin, avait publié son deuxième album avec Groupe Şimşek, qui réunit des musiciens français et anglais, un disque qui s'intitulait Dost One et portait la promesse d'un Dost Two. Ce deuxième volet du diptyque vient tout juste de paraître et reconduit une formule désormais éprouvée, offrir des relectures modernes de classiques anatoliens, folk ou psychédéliques, comme ce Darildim, initialement enregistré en 1979 par le duo Akaba Ikilizi, deux frères turcs eux aussi installés en Allemagne.
Derya Yildirim et Groupe Şimşek avec Darıldım, accent d'Europe à la réalisation. Françoise Grelot, vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux. À bientôt.